hors champ. Hors champ, aujourd'hui, avec Yves Mabin-Chenevière. Yves Mabin, vous êtes écrivain, poète, auteur de très nombreux livres dans ces deux disciplines. Le premier livre s'intitulait « L'usurpé », il est paru en 1969. Le dernier est paru il y a très peu de temps, au printemps dernier, il s'intitule « Un vieux dans le soleil couchant ». Et là, entre ces deux dates, entre ces deux textes, eh bien, il y a toute l'histoire d'une vie, une vie qui manifestement a été pratiquement et totalement consacrée à l'amour de la littérature, non seulement parce que vous êtes écrivain, mais parce que dans le maigre temps qui vous était donné en dehors de votre métier, et je rappelle que vous êtes diplomate et que vous avez beaucoup fait pour la reconnaissance de la littérature à l'intérieur de votre propre métier, eh bien vous passiez ce peu de temps, c'est-à-dire l'été, pendant les vacances, à écrire. À partir de quand a commencé votre amour de la littérature et de la poésie ?
Je crois que je l'ai toujours eu, je dirais pour des raisons d'environnement familial. J'avais un grand-père qui d'ailleurs était un homme de lettres, qui a été dénoncé par les Français et fusillé par les Allemands, et qui était écrivain, mais qui était surtout un homme de lettres. Et dans ma famille, chez mon père, ma mère, tout le monde lisait, tout le monde. J'ai toujours vu beaucoup de livres, et j'ai lu beaucoup, 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 beaucoup. Et en fait, voilà, quand on baigne dedans, c'est vrai que ça, c'est pas systématique. Je relisais dernièrement Le Pompe funèbre de Genet, qui est un livre absolument invraisemblable, qui d'ailleurs, à mon avis, ne serait censuré actuellement. Je suis sûr que ça passerait plus. Eh bien, ce livre a été écrit par Jean Genet, qui était ce qu'on sait qu'il était, d'origine bretonne, d'ailleurs, comme moi. Mais c'était vraiment le point commun que j'avais avec lui, parce que c'était un génie, ce que je ne suis pas. Et c'est un livre extraordinaire. Et donc, l'environnement ne fait pas tout, mais il fait beaucoup. Et j'ai commencé très tôt parce que j'ai toujours écrit, toujours comme tous les enfants et tous les adolescents. Et puis, voilà, en 69, j'ai proposé un texte à Jean Cayrol, qui était un homme merveilleux, qu'on a oublié très injustement, et qui avait créé une petite collection qui s'appelait Écrire, et où on parut, d'ailleurs, je crois que le premier Solaire a paru dans cette collection. Et puis, bon, après, comme j'étais diplomate, je m'occupais beaucoup, je travaillais beaucoup. J'avais une vie double, en fait. Le jour, je travaillais pour les autres, c'est-à-dire pour le service public, parce que la vérité, c'est ça. Le service public, c'est les autres. Donc, je travaillais pour les autres, et en particulier pour l'image de mon pays, la meilleure connaissance de mon pays, et également la meilleure connaissance des autres pays dans mon propre pays. Et puis, la nuit, et comme j'ai la chance et la malchance d'être insomniaque, eh bien, je travaillais pour moi, égoïstement pour moi, et très, très décidé à être très égoïste, au moins dans ce temps-là. Et parce que je n'imagine pas qu'on puisse écrire sans solitude, sans s'enfermer sur soi, pour que quelque chose sorte, naisse, et avec la certitude qu'on écrit pas pour les autres, mais on écrit toujours au moins à un autre ou à une autre. Et on écrit aux autres, mais on n'écrit pas pour les autres. Et l'erreur est évidemment d'écrire pour les autres. Mais il faut écrire aux autres. Et on le fait parce qu'on ne résiste pas au besoin de le faire, au plaisir de le faire. J'ai jamais cru à la douleur d'écrire. J'ai cru à l'acharnement, oui, à l'effort, à un travail épuisant. Ça épuise d'écrire. Moi, je vois, surtout actuellement où j'ai quelques difficultés, le fait d'avoir écrit ces deux récits en 3-4 ans, 4 ans, eh bien, en fait, ça épuise. Et j'imagine que, puisque c'est mon état, plus on vieillit et plus ça épuise. Mais c'est un épuisement somptueux. Une chance de s'épuiser à force d'écrire.
Bien Alors, sûr. On a l'impression, Yves Mabin, qu'au cours de votre itinéraire à la fois d'écrivain et de poète, vous avez été tellement gorgé de littérature, tellement imprégné par ce que vous lisiez, tellement imprégné aussi par l'amitié avec certains écrivains, amitié très féconde, par exemple celle avec Julien Gracq, mais il y en a eu bien d'autres, oui, que vous voyez le monde comme un roman et que vous avez vu l'amour comme on peut le lire dans les romans.
Les deux actions centrales, les deux axes de ma vie, de toute ma vie, ça a été d'écrire et d'aimer. J'ai aimé des êtres et j'ai eu la chance d'abord d'aimer passionnément quelques êtres, et j'ai eu la chance d'aimer aussi passionnément, même différemment, des amis. J'ai eu la chance d'avoir des amis remarquables, des amis connus ou pas connus, certains très connus. Je me souviens d'un dîner chez moi avant mon départ comme attaché culturel à Londres, où j'avais devant moi, avec ma petite fille qui avait 3 ans à l'époque, il y avait Julien Gracq, il y avait Claude Simon, et il y avait Gilles Deleuze. Et je dois dire que j'avais beaucoup d'admiration pour eux, et j'avais une très grande affection pour eux, parce qu'ils avaient en commun d'abord d'être très rigoureux, mais ils avaient aussi en commun ce qui est quand même plus rare maintenant, je trouve, c'est une étonnante délicatesse, une très grande délicatesse, ce qui ne les empêchait pas d'être rudes dans l'expression de leurs convictions. Mais ils étaient extrêmement délicats. Ils ne faisaient pas de faute de sensibilité. Et ils pouvaient piquer. Mais là, je dirais, ce trio-là, par exemple, a beaucoup joué sur moi, et en particulier Gilles. Gilles était vraiment quelqu'un de fascinant, à beaucoup de points de vue. J'ai de Gilles Deleuze des lettres, je ne sais pas, une cinquantaine, centaine de lettres, qui sont bouleversantes de délicatesse et de sensibilité. Vraiment bouleversantes.
Ben justement, je vous propose de l'écouter.
Vous ne désirez jamais quelqu'un ou quelque chose. Vous désirez toujours un ensemble. C'est pas compliqué. Et notre question, c'était, quelle est la nature des rapports entre des éléments pour que il y ait désir, pour qu'il devienne désirable. Je veux dire, je ne désire pas une femme, là j'ai honte de dire des choses comme ça, c'est Proust l'a dit, et c'est beau chez Proust, je ne désire pas une femme, je désire aussi un paysage qui est enveloppé dans cette femme. Paysage qu'au besoin je ne connais pas et que je pressens, et tant que je n'aurai pas déroulé le paysage qu'elle enveloppe, je ne serai pas content, c'est-à-dire, mon désir n'aura pas abouti. Mon désir restera insatisfait. Là, je prends un ensemble à deux termes, femme-paysage, mais c'est tout à fait autre chose. Quand une femme dit « je désire une robe, tiens, je désire ça, telle robe, tel chemisier », mais c'est évident qu'elle ne désire pas telle robe, tel chemisier dans l'abstrait. Elle le désire dans tout un contexte, qui est un contexte de vie à elle, qu'elle va organiser. Le désir en rapport avec non seulement un paysage, mais avec des gens qui sont ses amis, ou avec des gens qui ne sont pas ses amis, avec sa profession, avec etc. Je désire jamais quelque chose de tout seul. Je désire bien plus, je désire pas un ensemble non plus, je désire dans un ensemble. Désirer, c'est construire un agencement, c'est construire un ensemble.
Voilà, nous venons d'entendre la voix de votre ami, Gilles Deleuze, c'est dans l'abécédaire, D comme désir. Et il y a des échos très forts à l'intérieur de vos textes, Yves Mabin, de ce que vient de dire Deleuze. Vrai. En quelque sorte, vous appliquez ce qu'il vient de dire dans votre propre vie aujourd'hui.
C'est vrai.
Trois ans après cet accident vasculaire cérébral qui vous est arrivé.
Vous savez, quand j'entends cette voix, il avait la voix de sa pensée. Il avait vraiment la voix de sa pensée. Et lorsque je trouve formidable aussi, et qu'il assumait totalement, parce que Dieu sait si ça a été lourd pour lui, c'est ces quintes de tout d'un coup, qui interrompent le discours. Et ces quintes, je les trouve d'une musicalité extraordinaire, parce qu'il a vécu la fin de sa vie avec la moitié d'un poumon. Quand il vous recevait avec Fanny, son extraordinaire épouse, quand il vous recevait chez lui, il faisait comme si. Il était toujours, voilà, d'une grande élégance, et d'une telle intelligence. Vous savez, l'intelligence, c'est sensuellement beau, tellement c'est émouvant, finalement. Parce que bon, il y a beaucoup de gens intelligents, mais il y a une qualité d'intelligence qui implique justement d'autres qualités et qui est tout simplement bouleversante, comme quand on regarde un enfant ou un petit enfant ou un. Moi, j'ai une petite fille dont je suis fou amoureux. Eh bien, ma petite fille, quand je la regarde, je suis plein de larmes, en un certain sens, et plein de rire.
Alors, Gilles Deleuze n'a pas eu le désir de continuer à vivre. Et dans un de vos bouquins, Yves Mabin, vous racontez le dernier coup de téléphone de Deleuze.
Oui, Gilles m'avait appelé un lundi ou un mardi, je ne me souviens plus. Il avait laissé un message. Et moi, je ne rappelais jamais, parce que comme il étouffait tout le temps, je me disais, si jamais il est tout seul, ce qui arrivait quand même, quand Fanny n'était pas là, il va étouffer en voulant répondre, parce qu'il donnait son numéro de téléphone à peu de gens. Et il avait dit, je te rappellerai. Et heureusement, il m'a rappelé le jeudi soir, et il m'a dit des choses d'une telle tendresse, mais qui était le ton des lettres qu'il m'écrivait, d'une telle. Et j'ai été quand même. C'était tellement intense que. D'abord, j'étais presque silencieux. Et après, quand il a raccroché, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça cache? À ce point-là, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, je vais rappeler samedi quand Fanny sera rentrée du marché. Et donc, elle pourra me répondre. Et c'est elle, en fait, qui m'a appelé pour me dire qu'il était mort sans me dire comment. Et quand j'ai su comment. J'ai trouvé ça à la fois splendide et en même temps terrible. Mais je me souviens, pour vous dire à quel point il était délicat, un jour je reçois un mot de lui, avec juste deux lignes, trois lignes, comme il faisait qu'il fallait écrire tout en haut de la page. Et il met, tu sais, quand je ne suis pas bien et que je suis allongé sur mon lit, c'est à Gaël à qui je pense. Et je me suis dit, mais pourquoi va-t-il chercher? Et Gaël, c'était une héroïne de second plan d'un roman que j'avais publié chez Grasset et qui avait la singularité d'un jour de se précipiter du haut d'une falaise en Bretagne et de se suicider. Et je me suis dit après, mais comment se fait-il que 4-5 ans avant, ils me disent que c'est à elle qu'il pense. Et c'est autant de choses comme ça où je me suis dit des petits détails où, au fond, les choses, à mon avis, étaient préparées, planifiées chez lui.
Vieillir, voir mourir, se voir mourir, voir le crâne nu, les cheveux blancs, le front ridé, les joues fanées, le cou décharné, la voix faible, les mains tachées, le dos voûté, le souffle court, voir les mots se perdre, le désir paresser, la volonté traîner, la rêverie fondre, le rêve s'user, l'imagination mollir, la conscience céder, la mémoire faillir, la raison se figer, le regret s'étioler, le sommeil tarder, l'éveil s'engluer. Voici ce que vous écriviez dans votre livre de poèmes intitulé « Variations du sensible ». Et ça, évidemment, c'était avant, c'était en 2009, c'était avant cet accident qui vous est arrivé. N'avez-vous pas pressenti ce que vous êtes arrivé poétiquement?
À vrai dire, non, parce que j'ai eu mon accident en 2006. J'ai eu mon accident en 2006, mais j'avais... vous savez, dès qu'on commence à vieillir, d'ailleurs, dans un de mes récits, je dis, on commence au fond à vieillir, à partir de 50 ans, on sent qu'on commence à vieillir, mais ce n'est pas du tout inquiétant. D'ailleurs, ça n'est jamais inquiétant. Et ce qui est le moins inquiétant, c'est de mourir, d'ailleurs. Mais on sent qu'il y a des choses qui se perdent. Il y a des choses qui se perdent dont on se dit que certaines vont revenir et puis d'autres qui sont irrémédiablement perdues. Et voilà, et décade après décade, voilà, c'est une sorte de, voilà, une déchéance qui peut être regardée d'une façon sereine, d'ailleurs, d'une façon positive, ne serait-ce que par courtoisie à l'égard des autres. Mais puis quelquefois, elle est quand même tellement forte que voilà, on n'échappe pas. Ce qu'il faut surtout, c'est la grande crainte au fond. La grande crainte, c'est une massive perte de conscience et c'est le problème de l'Alzheimer. La grande crainte que moi j'ai, c'est justement en effet de voilà, de finir comme un chou-fleur muet. Et là, vraiment, j'aimerais bien que c'est un des regrets de ma vie d'ailleurs, à vrai dire, quand j'ai su comment Gilles était mort en se jetant par la fenêtre. J'imaginais cet appartement et l'effort incroyable qu'il a dû lui falloir, lui qui étouffait à chaque pas, pour franchir cette fenêtre et se jeter. Je n'aurais qu'un, c'est vraiment un vrai regret de ma vie, c'est n'avoir pas été par hasard là. Et évidemment, je l'aurais aidé à le faire, parce que c'était la seule chose positive à faire. L'aider, lui le dispenser de cette ultime souffrance, cette fatigue, cet épuisement. Il a écrit ce livre très beau, il s'appelle Épuisé. Cet épuisement, voilà. Et, alors qu'évidemment, aboutissait à une libération, mais j'ai souvent reparcouru ce chemin de sa chambre à sa salle de bain, et je me suis dit, mais évidemment, quelle bêtise que je n'ai pas été là à ce moment-là.
Mais vous aussi, dans deux livres bouleversants, l'un intitulé « Portrait de l'écrivain en déchet » et puis le plus récent « Un vieux dans le soleil couchant », vous racontez à quel point cet AVC vous a entraîné, à la fois dans des opérations très délicates, dans un asservissement de la souffrance à l'intérieur de votre corps, dans un emprisonnement de votre propre corps par rapport à votre liberté ancienne. Heureusement, votre esprit est resté intact, mais à certains moments, dans des épreuves ô combien difficiles, vous n'avez pas exclu l'hypothèse du suicide.
Oui, bien sûr, bien sûr. Dès qu'on pense, dès qu'on essaie de faire une sorte d'analyse de la réalité, eh bien, c'est une des pensées qui vous viennent aussitôt à l'esprit. On n'échappe pas à la pensée du suicide. Et bon, on espère que ce ne sera pas comme ça qu'on finira. Mais par moments, l'abandon du corps par le corps est si grande qu'on se dit, mais enfin, y a-t-il une autre solution? Et ceux qui nient la réalité du problème, à mon avis, ce sont des imposteurs. C'est d'ailleurs, entre nous, c'est quand même une des caractéristiques des temps que nous vivons dans tous les domaines, c'est l'imposture. Il y a une imposture, et y compris en soi-même, dans le tri ou dans le rejet qu'on a de certaines pensées, parce qu'elles nous dérangent, parce qu'elles sont rudes, et que quand on n'a plus la force de contrer ou d'admettre les pensées qu'on a soi-même, eh bien, il est grand temps de s'en aller. Voilà, moi, je vois ça un peu. Il est temps de partir. Et alors, ce qu'il faut, c'est que quelquefois, hélas, on traînaille. Quand on est boiteux comme moi, en plus, on traînaille particulièrement. Et ce qu'il faudrait, en effet... Vous savez, j'avais fait une hypothèse dans un de ces livres que si je voulais me suicider, je n'aurais même pas le moyen de le faire. Parce que, comme je suis hémiplégique, je ne peux pas me pendre à une corde, je ne peux pas monter sur une chaise, je ne peux pas me jeter par la fenêtre. Enfin, c'est une espèce d'ironie terrible de se dire... Quelquefois, il y a des jours ou des nuits où je n'ai qu'une envie, c'est en effet. Eh bien, je ne pourrais pas. Et ça, je trouve que c'est quand même un peu cruel.
À chaque passion, son objet, sa forme. À chaque vieux, sa vieillesse. Je ne me penche pas sur mon passé. Je suis mon passé, la carcasse de mon passé. Il m'en reste une portion de plus en plus ténue sur laquelle je porte des jugements que je n'ai plus le temps de mettre en délibéré avec moi-même. C'est ce que vous écrivez, Yves Mabin, dans Un vieux dans le soleil couchant. Est-ce à dire, finalement, et c'est l'impression que nous avons, parce que ces livres sont des livres non pas tellement autobiographiques, mais d'auto-analyse de la conscience comme une sorte d'alerte en éveil en permanence, hein, comme une sorte de stridence métaphysique. Est-ce à dire que vous vivez dans un présent démultiplié?
Je le crois, surtout que les présents d'un vieillard, C'est un vieux, j'aime bien le mot vieux, plutôt que vieillard.
Vous n'êtes pas un vieillard, pas encore.
Non, mais enfin, disons que je suis un vieux. J'aime bien ce que la difficulté... Je dis d'ailleurs dans une phrase qu'a repris Jean-Michel Delacomté, le directeur de cette nouvelle collection chez Gallimard, parce que vieux, on le dit d'un meuble, on le dit de beaucoup d'objets. Et au fond, c'est bien, à un certain moment, de sentir qu'on devient objectivement un objet. On le sait par nature, le corps est un objet, tout en étant autre chose qu'un objet, tout à fait autre chose, mais il est aussi un objet. Et tout d'un coup, lorsque le sujet corps se pense comme objet corps, eh bien, j'ai l'impression qu'on a, si on réussit à faire le tour de cette réalité, était là, je veux dire qu'on a finalement eu une vie pas si idiote, inutile.
Vous avez des remords et vous en faites la litanie à l'intérieur du dernier texte publié.
Oui, je n'ai aucun regret, je n'ai pas de regret. D'ailleurs, tout ça, j'ai toujours tout considéré que c'était inutile. Celui qui avait fait quelque chose de laid, de cruel ou ça, ne devait pas se contenter d'avoir des regrets. Moi, je ne regrette, j'ai pas de regrets, mais j'ai des vrais remords. Et j'ai des vrais remords parce qu'au fond, on fait les choses, on fait trop de choses à moitié. On aime les gens qu'on aime, mais au fond, on ne les aime jamais assez, y compris ses proches, ou on les aime mal, ou on les aime mal. Alors, une fois que c'est fait, ça sert à rien de regretter, mais il faut avoir vraiment la sensation du remords. Si les hommes n'ont pas de remords, je ne vois pas pourquoi on punirait les criminels et surtout pourquoi on ne les autoriserait pas. D'ailleurs, ils s'autorisent bien eux-mêmes. Ils continuent à l'être. Les gens n'ont pas de remords. Ils n'ont plus de remords. Ils ont beaucoup de regrets et ils pleurnichent toute la journée sur voilà. Mais le remords, ce qu'on n'a pas fait, l'omission, la faute par omission. Et à l'égard même de ses parents, de ses enfants, de ses proches, de ses amis. Et puis, j'irais du voisin. Du voisin, il y a tellement d'omissions. Tellement de missions et dont on est objectivement coupable. Il faut simplement avoir la lucidité de reconnaître qu'on a été insuffisant. Voilà, insuffisant.
L'oiseau blessé qui tombe dans un champ de seigle parsemé de coquelicots qu'il a survolé trop bas, se souvient-il, avant de mourir, de son premier envol, de son dernier vol ? J'ai l'impudeur de ne pas mourir alors que je ne sers plus à personne, à rien. Mais je garde intacte l'émotion, il y a 8 ans, dans le jardin de l'hôpital des Invalides, d'avoir tenu dans mon bras valide, mon seul bras valide, ma petite fille Ella, âgée de quelques mois. Je la serrais contre moi, il faisait beau, elle fixait sur mon visage déformé ses yeux bleus grands ouverts. J'ai confié à son regard paisible le reste de ma vie. C'est la dernière page de votre dernier ouvrage, Yves Mabin. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ?
Vous voyez, quand vous lisez ces lignes, c'est tellement vivant en moi qu'en effet, je reconnais que j'ai les larmes aux yeux.
Ben là, vos yeux, les yeux bleus, les mêmes yeux bleus peut-être.
Oui, c'est vrai d'ailleurs. C'est vrai. Parce que j'ai ce souvenir extraordinaire d'un enfant de quelques mois et que je serre contre moi parce qu'avec ce seul bras, j'ai peur qu'elle tombe. Et j'ose ce qui est une sorte d'hyperviol affectif. Elle me regarde d'ailleurs fixement et j'ose lui confier le reste de ma vie et je continue à lui confier le reste de ma vie.
Quel livre lisez-vous en ce moment ?
Écoutez, j'ai donc lu récemment Pompe funèbre de Genet qui est un livre incroyable et puis alors je suis en train de relire beaucoup de littérature allemande. Il y a un livre qui est extraordinaire qui s'appelle L'arrière-saison de Stifter, qui est un livre absolument incroyable. Il y a un livre incroyable aussi qui est La mort de Virgile d'Hermann Bror, ce sont des livres mais vraiment des fondamentaux. Je suis tenté je recommence la relecture avec une nouvelle traduction chez Folio de Alexander Prass de Dublin. Et il y a une littérature allemande, finalement, je découvre que je la connaissais. Enfin, j'avais lu ces livres-là, mais je les avais. Et là, je relis des pages, parce que j'ai plus le temps de lire ces gros livres. Mais j'invite les auditeurs vraiment à lire ces livres qui sont, mais vraiment, voilà, des piliers d'une culture et qui le sont encore pour moi.
Et vous écrivez ? le prochain
Écoutez,
ouvrage.
Pour l'instant, j'ai pas recommencé parce que j'ai été quand même épuisé par ces livres. Parce que vraiment, ça épuise. Et c'est ça d'ailleurs qui est le plus triste, c'est que tout d'un coup, on sent, ou en tout cas, on doute qu'on ait assez d'énergie pour se relancer dans un projet d'écriture, parce que c'est tellement fatigant.
Écrivez dans les deux derniers bouquins quasiment seconde par seconde les rides obligatoires de votre vie quotidienne.
Oui, oui.
Tout prend un temps considérable.
Considérable, tout.
Puisque mettre le pied par terre,
voilà.
Se faire un café, etc. Et dans cette dépendance à la fois matérielle, psychique et corporelle, on sent que vous avez une telle conscience de l'instinct de vie, je ne sais pas comment le nommer, du désir
vrai,
et de la jubilation qu'est le simple fait de vivre, que finalement vous êtes indépendant, vous arrivez à vous rendre indépendant de toutes ces contraintes.
Vous savez, le fait de, à chaque pas, d'abord penser au pas qu'on va faire pour ne pas tomber, le faire, penser qu'on le fait et pour qu'on ne tombe pas. Et après l'avoir fait, n'avoir pas le temps de se reposer avant de refaire la même chose pour un autre pas, et c'est vraiment épuisant. Épuisant. Alors que vous savez, la liberté de marcher est aussi importante que la liberté de penser. Elle est d'ailleurs souvent conjointe. C'est une banalité de dire que certains grands penseurs pensaient en marchant. Et Nietzsche et Kant marchaient. Et je crois qu'on ne peut pas penser sans avoir la liberté de marcher. Si bien que quand on ne marche plus, bien je vous assure que c'est un sacré handicap que de s'en passer. Et ne pas avoir la liberté de flâner, par exemple. La liberté de flâner avec ma petite fille. Je ne l'aurai jamais. La liberté de lui prendre la main et de me promener le long de la mer, je ne l'aurai jamais. Et ça, c'est un manque terrible dont je suis sûr que même mort, je me débrouillerai pour la regretter.
Merci beaucoup, Yves Malbin. Merci pour vos livres et on attend le suivant. Je rappelle que le dernier vient d'être publié aux éditions Gallimard. Il s'intitule « Un vieux dans le soleil couchant ». Merci Yves Mabin et merci à toute l'équipe de Hors-Champ. Merci à Corinne Amar, Samuel Bernard, Élodie Royer, à Anne Kobilac et Stéphane Touvenin. Vous écoutez France Culture. Thank you.